Alors, il faut bien avoir à l'esprit, quand on lit la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, que l'histoire d'Israël, c'est bien sûr passionnant, c'est riche, c'est plein de rebondissements, mais c'est surtout, et on ne s'en rend pas compte quand on lit l'Ancien Testament qui est centré sur l'histoire d'Israël, mais c'est surtout une histoire marginale au Proche-Orient ancien. C'est l'histoire d'un tout petit royaume qui était peu peuplé, peu riche, peu puissant, à côté des grands royaumes voisins. Et à l'époque de Jérémie, le royaume du peuple de Dieu, c'est un royaume encore plus petit et encore plus faible que quelques siècles avant, puisque vous savez sans doute qu'à un moment, il y a eu un schisme entre un royaume, une séparation entre un royaume du nord et un royaume du sud, que le royaume du nord a fini par se faire annexer par les grands royaumes voisins, et qu'il ne restait plus que le petit royaume du sud, qu'on appelle le royaume de Juda. Et au moment où l'on situe la prophétie de Jérémie, ce petit royaume est pris en étau entre deux grands royaumes riches et puissants, l'Égypte d'un côté et bien sûr Babylone de l'autre côté. Et le royaume de Babylone, dont on entend beaucoup parler dans la Bible, tient le royaume de Juda sous son influence. Et les Babyloniens assiègent même Jérusalem, au point que c'est Babylone qui a imposé sur le trône de Juda un roi qui lui est fidèle, qui lui est asservi. C'est le roi dont on entend parler ici sans qu'il soit nommé, et qui s'appelle Sédécias. Donc Sédécias est soumis à Babylone, mais d'autre part il reçoit les pressions de son entourage en faveur de l'Égypte. Pourquoi ces pressions? Eh bien, parce que l'Égypte et Babylone se font un peu la guerre. Il y a le royaume de Juda au milieu, mais de toute façon, qu'il soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose. Et quand les Égyptiens font une expédition militaire vers leurs ennemis babyloniens, eh bien, les Babyloniens reculent un peu et donc laissent Juda un peu plus tranquille. Et les Judéens sont donc contents parce que Babylone, c'est une menace plus directe que l'Égypte, parce que voilà, le roi babylonien Nabucodonosor est aux portes de Jérusalem. Donc, les Judéens préfèrent l'Égypte. Si vous avez l'impression que c'est un peu compliqué, c'est normal. Mais voilà, l'exposé historique est bientôt fini. Donc, Sédécias, le roi, est tiraillé entre deux options d'alliance. Il ne sait pas quoi faire et il consulte très souvent Jérémie, qui lui dit que ça ne sert à rien de résister aux Babyloniens puisqu'ils vont abattre le royaume en prenant Jérusalem et que c'est la volonté de Dieu. Et ça explique ce qu'on voit au début du texte. Jérémie invite les Judéens à se rendre aux Chaldéens, à ceux qu'on appelle les Chaldéens dans le texte, c'est-à-dire les Babyloniens. Et ceux qu'on appelle dans le texte les princes, qui sont en fait l'entourage du roi, eh bien, ils vont répéter ces paroles au roi et lui demandent de faire mourir Jérémie, parce qu'eux, ils n'aiment pas du tout que le roi soit soumis comme il l'est aux Babyloniens, et ils veulent résister aux Babyloniens. Et le roi Sédécias, donc c'est ce que nous avons lu, assez lâchement, un peu comme Pilate qui s'en lave les mains, le roi se démet de sa responsabilité et s'en remet à la hargne de ses conseillers envers Jérémie. Mais peu après, quand un de ses fonctionnaires vient le voir en l'apitoyant, en lui disant que Jérémie va mourir, alors le roi Sédécias ordonne de sortir Jérémie de la citerne. Alors je suis désolée d'avoir passé autant de temps à entrer dans ces détails historiques, mais je crois que c'est important pour percevoir la singularité de ce texte. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu le livre de Jérémie en tête. Ça fait quand même 52 chapitres, donc c'est tout à fait possible de ne pas l'avoir en tête. Mais comme dans tous les textes prophétiques, il s'y trouve beaucoup de paroles. Il s'y trouve surtout des paroles que le prophète adresse à ses contemporains. Et donc, comme dans le livre du prophète Ésaïe, par exemple, on a de longues phrases qui commencent par « Ainsi parle le Seigneur », qui se finissent par « Déclaration du Seigneur », et qui usent de toutes sortes d'images pour exprimer surtout le mécontentement de Dieu. Mais au milieu de ces oracles, il y a tout un passage dans ce livre qui est un récit, qui raconte des épisodes de la vie de Jérémie, comme cette histoire de citerne. Et c'est, à mon avis, très intéressant. Parce que pour comprendre cet épisode, comme vous l'avez vu, il faut se fatiguer un peu à comprendre le contexte historique en allant un peu plus loin que, voilà, il y a les Israélites d'un côté, le peuple de Dieu, et de l'autre côté, les méchants babyloniens. Et dans la Bible, on sait bien qu'il y a quelques livres, les Rois par exemple, qui nous plongent vraiment dans l'histoire très concrète, dans l'histoire politique du peuple de Dieu. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on trouve toute cette matière historique dans un livre de prophètes. Et donc que cette parole du prophète Jérémie, eh bien, elle est, grâce à ses récits sur la vie de Jérémie, elle est située, elle est ancrée dans une histoire. C'est une parole qui est intrinsèquement liée à un certain contexte historique. Alors en fait, c'est le cas pour tous les livres prophétiques, mais les allusions à l'histoire sont beaucoup plus difficiles à déceler quand il n'y a pas ce genre de récits qui nous font plonger dans l'action historique à l'œuvre. Alors, on dit souvent, quand on décrit notre foi chrétienne, que la venue de Jésus sur la terre, c'est l'incarnation, c'est le moment de l'incarnation de la parole de Dieu. Et c'est bien sûr vrai, mais je crois que dès avant la venue de Jésus-Christ, il y a des formes d'incarnation de la parole de Dieu, que la parole de Dieu a toujours été, d'une manière ou d'une autre, incarnée. Que ce n'est jamais une parole abstraite, mais qu'elle surgit toujours dans une histoire précise, que cette histoire soit personnelle ou collective, et souvent même les deux à la fois. Et dans notre texte, par exemple, on voit qu'il y a à la fois des enjeux de politique extérieure du royaume de Juda, voilà, qui choisit-on comme allié, mais il y a aussi l'enjeu du choix personnel de Sédécias. Est-ce qu'il assume de se laisser mener par ses conseillers qui veulent faire mourir Jérémie ? Est-ce qu'il assume de consulter souvent Jérémie ? Deux conflits donc qui constituent le contexte de cette parole de Jérémie. Un conflit extérieur avec les Babyloniens et un conflit qui pourrait être intérieur à chaque Israélite qui doit accepter la défaite du royaume de Juda face à Babylone. Conflit intérieur qui est illustré ici par ce revirement du roi Sédécias. Et ces différents conflits, eh bien, c'est ce qui fait la matière historique dans laquelle prend racine cette parole de Dieu, c'est ce qui fait l'histoire, une série de tensions, de problèmes qui se résolvent ou bien qui donnent naissance à d'autres choses. L'histoire est faite de problèmes, de ces problèmes qui demandent à être résolus, et donc font évoluer les situations, font avancer l'histoire. Alors bien sûr, face à un texte comme celui de Jérémie, ce n'est pas la seule, comme le texte que nous avons lu de Jérémie, ce n'est pas la seule clé de lecture possible. On peut aussi mettre cet épisode en relation avec l'image de l'eau, par exemple, qui court dans tout le livre de Jérémie. Par exemple, au début, quand Dieu dit de son peuple « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et on peut voir alors que cette parole de Dieu transmise par le prophète, eh bien, on nous dit que voilà, les hommes ne veulent pas toujours l'entendre, refusent d'aller à la source d'eau vive et enferment cette parole dans leur fragile construction humaine, comme Jérémie enfermé dans cette mauvaise citerne, qui d'ailleurs ne retient pas l'eau, puisqu'on note que Jérémie ne s'y noie pas. On peut aussi faire cette lecture, mais je crois qu'on ne peut pas éviter, pour vraiment comprendre ce genre de texte, on ne peut pas éviter de plonger un peu les mains dans le cambouis, disons, de plonger les mains dans la matière de nos conflits humains, comme quand on essaye de comprendre les tensions compliquées qui animent la cour de Judas, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. La parole de Dieu ne nous emmène pas dans un autre monde qui serait un monde idéal, mais elle vient dans notre monde avec ses faiblesses pour le transformer. Je crois que c'est ce que peut nous dire ce texte. Et c'est peut-être une manière aussi de comprendre cette parole pour le moins mystérieuse de Jésus que nous avons lue dans l'évangile du jour. J'ai pris les textes du jour. J'ai juste un peu étendu le texte de Jérémie parce que sinon c'était encore moins compréhensible. Donc cette parole de l'évangile du jour, je ne suis pas venue apporter la paix mais la division. Donc voilà, parole pour le moins troublante, disons-le. Eh bien, peut-être qu'on peut comprendre cette parole en pensant à l'incarnation, en pensant au fait que cette parole qui vient sur la terre, eh bien, elle est adressée à des êtres humains concrets qui vivent dans un certain contexte, qui ont leurs doutes, leurs souffrances personnelles, des espoirs et des craintes liées au contexte historique dans lequel ils vivent, et donc que cette parole ne reste pas dans l'abstrait, qu'elle ne reste pas au-dessus de cette matière, mais qu'elle plonge dedans pour s'adresser à des réalités humaines concrètes. Et parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire, cette parole, eh bien, elle fait forcément naître des conflits, qui peuvent être aussi des tensions intérieures, qui peuvent être des conflits intérieurs, personnels. Ce n'est pas une parole lisse, que tout le monde reçoit de la même manière au même moment, mais c'est une parole partiale qui donc peut susciter des réactions différentes qui peuvent mener à la division. Alors certes, je crois que Jésus est quand même porteur d'une parole de paix, mais je crois aussi que nous serions tous d'accord pour dire que Jésus n'est pas venu apporter la paix au monde sur un plateau et que nous n'aurions eu qu'à nous servir. Sinon, le monde dans lequel nous vivrions serait peut-être un peu différent de celui que nous connaissons. Alors je crois que quand on dit que Jésus nous donne la paix, et Jésus dit bien dans l'évangile de Jean « Je vous donne ma paix », eh bien c'est qu'il nous met en marche vers la paix, c'est que son amour nous invite à construire la paix. Alors voilà, la parole de Dieu, aussi bien dans la bouche du prophète Jérémie que comme parole du Christ, eh bien c'est une parole incarnée qui n'est pas neutre, qui ne refuse pas de se situer dans certains conflits qui agitent le monde et qui même peut faire naître des divisions. Et ce pourquoi cette parole ne peut pas être neutre, eh bien c'est qu'elle porte quelque chose de fort, une bonne nouvelle. Et si on devait résumer cette bonne nouvelle à un événement unique, on ne va pas jouer aux devinettes, mais je vous le donne en mille, je pense que c'est la résurrection. C'est la vie qui se relève, qui se met en mouvement et qui vainc la mort et ses peurs. Et en fait, si on retourne un peu rapidement à ce texte de Jérémie, eh bien on peut se rendre compte que c'est en fait une petite résurrection qui nous est proposée là, puisque Jérémie a été jeté dans une citerne, donc dans un endroit de mort où il n'y a ni lumière ni chaleur. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'il est sur la voie de la mort qu'on veut le repêcher. Et donc, un peu comme l'histoire de Jonas, par exemple, et en fait comme pas mal d'histoires de l'Ancien ou du Nouveau Testament, comme les histoires d'aveugles qui se relèvent, par exemple, on nous raconte ici une petite résurrection personnelle de Jérémie. Et donc je crois qu'une dernière chose que peut nous dire ce texte de Jérémie, eh bien, c'est que la parole de Dieu, cette parole incarnée qui est la source de notre foi, eh bien, elle s'incarne dans la vie de chacun et chacune, et que nous vivons tous de petites résurrections de notre vie, un peu comme Jérémie, un peu comme l'aveugle au bord du chemin ou ces autres récits de miracles que nous connaissons. La parole de Dieu ne laisse pas indifférent. C'est un message fort, un message de vie qui vient plonger dans le tumulte du monde pour rejoindre des contextes précis et différents. Et ce n'est pas toujours évident de savoir discerner cette parole, cette résurrection à l'œuvre au cœur de la fragilité de nos vies, de la conflictualité de nos vies. Mais c'est peut-être bien que ce ne soit pas si facile à voir, puisque cela signifie que Dieu nous laisse une part du travail et que donc nous sommes appelés à collaborer à l'action de Dieu sur terre, ce qui est, je crois, une belle chose. Amen.